ménage. Remue Ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue Ménage sur Radio Zone 93,8. Bienvenue sur Remue Ménage en ce mercredi après-midi avec un coin de soleil derrière votre fenêtre. Ça fait du bien après tous ces jours bien maussades. Et j'ai à côté de moi Anna Regazzoni. Bonjour Anna.
Bonjour.
On se retrouve après deux mois déjà écoulés. Il y a eu un grand espace-temps qui s'est séparé depuis notre dernier entretien. Mais nous nous retrouvons donc pour évoquer un autre projet que soutient l'association humanitaire Helvetas, un projet de développement dans lequel sont fortement comprises des femmes. Et aujourd'hui, nous allons parler, Anna,
du Paraguay.
Du Paraguay, et eh oui. Juste avant de parler de Paraguay, nous allons passer quelques instants en musique, mais il y a quand même une chose qu'on aimerait vous rappeler, c'est que cette semaine, Radio Zone se trouve pendant toute la semaine au Salon du Livre et de la Presse à Genève, et que nous avons un stand pour vous accueillir à la rue Pushkin, si vous voulez vous retrouver, et qu'il est donc important que vous passiez pour voir ce que nous vous proposons, entre autres de nombreux débats. Cet après-midi, il y a quelques instants, nous avions un débat organisé autour de la sortie d'un livre qui concerne le harcèlement sexuel qu'animait Radio Pleine Lune, que vous retrouvez bien évidemment à 6h30, et elles pourront vous raconter très en direct ce qu'elles ont vécu cet après-midi. Il y a plein d'autres débats organisés autour de divers sujets, que ce soit les problèmes d'énergie, les problèmes de toutes sortes, et il est important que vous veniez nombreux suivre ces débats, comme suivre tout ce qui se passe à l'intérieur du Salon du Livre. Entre autres, un grand débat dimanche sur le podium principal du Salon du Livre. Et donc, nous vous encourageons vivement à venir. Par ailleurs, Remue Ménage vous propose des billets gratuits, des entrées gratuites pour aller au Salon du Livre. Alors, n'hésitez pas, téléphonez-nous pendant le courant de cette émission, entre 17h et 18h30, au 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 0033 si vous appelez depuis le restant de la Suisse romande, et nous vous enverrons ou vous viendrez chercher les billets d'entrée gratuite pour le Salon du Livre qui se tient, je vous le rappelle, depuis aujourd'hui jusqu'à dimanche soir.
Zumeu zugoro serrano ogni balcone a una brita cantone mudurestan sugoro armonia lontana più non tesse cantone campare Sazundar de suboro O mineschino andolu devorare sa vita obliga in resa memoria a chi è vita vedia a fizzo me su coro e bruso una mamma lacrima sia spontana code a nino perdono. Impresse crescido, giovanuno esti stato, caso tempo sin solo, con suo destino è suido, affizzo me su coro, deo di gelso dormire, con suo sole in sa svena.
ces airs de grandes fêtes, eh bien, c'est le Brésil, bien sûr, sur des airs de carnaval, le temps du plaisir, comme vient de nous chanter Gal Costa. Et tout à l'heure, vous avez entendu Maria Carta, qui est une chanteuse sarde que nous aimons beaucoup dans Remue Ménage. Alors, nous allons partir maintenant au Paraguay, en Amérique du Sud. Alors Anna Regazzoni, c'est un nouveau projet que soutient Helvetas dont nous allons parler ce soir. Vous vous en occupez déjà depuis un certain temps au Paraguay.
Depuis 86.
86, donc c'est pas si nouveau que ça. Il y a déjà un bon moment que vous travaillez dessus. Mais disons que pour nos auditrices, le Paraguay, c'est encore une nouvelle étape dans le cheminement qu'on a essayé de suivre pour voir quelle était la part que prenaient les femmes dans le développement dans les pays du tiers-monde. Alors on avait déjà évoqué de nombreux pays. Nous avions parlé de la République dominicaine, de...
La Malaisie,
du Mali et du Mozambique, voilà. Et puis, nous avions parlé aussi du Kenya avec une autre, avec Corinne Vaquer. Donc, ces nombreux pays nous ont permis de connaître diverses situations. Et puis, nous n'étions pas allés encore en Amérique du Sud. Et bien voilà, ça y est, nous débarquons dans le continent sud-américain. Et le Paraguay est un pays où le mouvement des femmes, le mouvement féministe, est très développé, d'ailleurs comme dans presque tous les pays d'Amérique du Sud. Et je me base sur cela, sur tous les documents que vous m'avez fournis, entre autres de nombreuses coupures de presse, et on s'aperçoit à quel point il existe au moins 15 organisations de femmes très importantes qui sont coordonnées entre elles et qui sont liées au mouvement féministe sud-américain.
Oui.
De tous les pays divers, où elles se rencontrent au Pérou, au Brésil, etc. On s'aperçoit qu'elles ont très souvent des rencontres entre groupements de femmes en Amérique du Sud. Et puis aussi liées au mouvement international des femmes, parce qu'elles participent aussi à des rencontres qui réunissent pas seulement des femmes d'Amérique du Sud, mais d'autres pays du monde. Alors, j'avais envie de résumer rapidement ce qui me semblait être, au vu des articles que j'ai lus, les préoccupations essentielles du mouvement féministe au Paraguay. Alors, ces informations, je les ai trouvées d'abord dans un magazine, je crois qu'il est mensuel, Anna, c'est ça, Informatif Mujer.
Oui, exactement, c'est mensuel.
Qui vient de sortir, c'est assez récent, puisqu'il y a une année qu'il existe. Le premier numéro date de janvier 1989 et est lié au Centre de documentation et d'études qui a décidé de faire une partie spécialisée à propos des femmes.
Oui, donc c'est un volet des activités de ce centre de documentation.
Voilà, et ce journal est très particulier puisqu'il contient la liste absolument exhaustive de tous les articles de journaux qui paraissent concernant des problèmes de femmes. Et elle donne d'abord la liste, tout simplement, et ensuite elle publie les articles qui leur semblent les plus importants concernant les problèmes de femmes. Alors, si je prends quelques titres et quelques-uns des thèmes abordés dans ces articles de journaux, eh bien, je vois par exemple que le problème de l'égalité des droits, selon une loi qui aurait été votée en 1986, et nous y reviendrons tout à l'heure avec Anna Regazzoni, loi qui existe mais qui, bien sûr, est loin d'être appliquée et qui pose beaucoup de soucis aux femmes paraguayennes. On voit par exemple aussi de nombreux articles concernant la violence faite aux femmes. De nombreuses femmes sont battues et ça, c'est un problème qui existe aussi chez nous, mais qui est bien sûr accentué dans un pays où le machiste est roi et peut tout se permettre, y compris tuer sa femme pour venger son honneur. Et on voit aussi dans ces histoires de violence le rôle de la justice. Par exemple, il y avait un article que je vous résume en trois phrases parce que tellement il est exemplaire, où une femme a enfin osé porter plainte contre son amant, son concubin, parce que c'est précisé, qui la battait. Et finalement, c'est elle qui s'est retrouvée en prison et on a libéré le concubin qui la battait parce qu'on a découvert tout à coup qu'elle aurait été polygame, n'est-ce pas ? Elle aurait eu deux mariages. Alors c'est elle qui s'est retrouvée en prison alors que c'est elle qui venait porter plainte contre les coups qu'elle avait subis. Il y a de nombreux articles qui ont pour titre souvent « épouse, mère et travailleuse ». Est-ce que c'est des choses conciliables, donc la place que peut prendre la femme dans la société, dans le monde du travail ? Certains articles que j'ai trouvés qui parlent de dette. Le Paraguay, comme beaucoup de pays d'Amérique du Sud, est très largement endetté, bien sûr, vis-à-vis de l'extérieur. Et comment le poids de cette dette se porte sur les femmes ? Nombreux articles sur les mères chefs de famille. Ça aussi, je crois que c'est un problème qu'on retrouvera largement à la campagne.
Aussi, bien sûr.
Des femmes qui se retrouvent chefs de famille, parce que les hommes, comme je trouve dans un titre, d'ex-époux qu'ils sont devenus, deviennent d'ex-pères. Donc, ça, c'était aussi le titre d'un des articles des journaux. Et puis, tous les problèmes liés à la sexualité, où sexualité signifie répression au lieu de signifier éducation pour beaucoup de femmes au Paraguay, que ce soit à la ville ou à la campagne. Et on voit aussi que dans ce journal Informative au Mujer, elles font la distinction des sources d'informations. Et on repère très très vite, bien sûr, que des articles qui sont tirés par exemple du journal Patria regroupent tout ce que la droite peut sortir là-dessus. Et il y a parfois des articles assez rigolos où on voit « Hommage à la femme paraguayenne ». Et c'est l'honorable junte municipale qui a décidé d'offrir un monument dédié à la mère. Ou bien d'autres qui disent... que les efforts des femmes pour améliorer leurs conditions sont des attitudes exaltées qui ne mènent à rien. Donc on voit quelle est la place que prennent les femmes de droite, coloridas comme on les appelle, liées au parti principal au Paraguay, qu'elles prennent dans le rôle des femmes. Je crois qu'elles jouent un rôle, mais en fait elles jouent un rôle très, très utilitaire par rapport au pouvoir au Paraguay, ces femmes-là.
En fait, ce sont surtout des exceptions, ces femmes qui apparaissent dans la vie publique, parce que la fonction de la femme est par définition épouse-mère et pratiquement presque servante de son mari. Donc c'est très rare qu'elle puisse accéder à un poste de direction.
Et donc, il est temps qu'on puisse avoir des femmes qui ne soient pas de droite, qui apparaissent dans ces fonctions-là. Parce que celles-ci, pour l'instant, elles ont l'air vraiment de cautionner le gouvernement sur toute la ligne, quoi.
Effectivement, il y a surtout des avocates qui luttent vraiment pour arriver à l'égalité de la femme et à abolir toute forme de discrimination. Et c'est grâce à elles que quelques résultats peuvent être obtenus.
Mais bon, qui semblerait ne sont pas d'accord d'utiliser d'autres voies que les voies strictement légales pour obtenir une avance et une application de cette loi sur l'égalité entre hommes et femmes, qui semblerait pour l'instant pas du tout appliquée.
En fait, donc, le nouveau code civil est entré en vigueur en 87 et il paraît qu'il y a eu, à certains points de vue, un pas en arrière qui a été fait par rapport au code civil précédent. Il y a justement un groupe de 3 femmes avocates qui ont fait une étude là-dessus et elles ont pris comme point de référence la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination contre la femme. Et donc elles ont fait une comparaison entre ce document des Nations Unies et le nouveau code civil et elles ont extrait tous les points, disons, qui vont à l'encontre de cette convention que le Paraguay, par ailleurs, a ratifiée.
Oui, parce qu'un autre article que j'ai vu, où c'est une femme qui était envoyée au nom du Paraguay pour ratifier ce document, et qui, semblerait, n'est absolument liée dans aucun des groupes de femmes au Paraguay, et qui donc vient tout à coup apposer la signature du Paraguay par rapport à quelque chose qu'elle connaît très très mal, si ce n'est au niveau strictement légal, puisqu'elle est aussi avocate. Hein, et l'article que je lisais disait bien que les femmes étaient révoltées de voir que c'était cette femme qui allait parler en leur nom alors qu'elle était si peu liée au mouvement des femmes au Paraguay.
Et en plus, quand le code civil a été adopté par le Parlement, il paraît qu'il y avait vraiment peu de femmes pour s'opposer contre ces articles qui, en fait, continuent à permettre la discrimination.
Pour donner un tout petit exemple, eh bien, le nouveau code civil, par exemple, oblige toujours la femme mariée à obtenir l'assentiment de son mari avant d'exercer un métier. Et c'est ça qu'on appelle la suppression des discriminations à l'égard des femmes. Alors, pour terminer sur les différents articles qui nous donnent un aperçu des préoccupations des femmes, eh bien, par exemple, il y avait de très nombreux articles qui marquaient le 8 mars. Visiblement, c'est un moment qui est manifesté et vécu de façon importante au Paraguay. Sauf peut-être, bon, il y a certains milieux de femmes qui doivent peut-être pas être touchés par cela. Il y avait un article, par exemple, sur une lavandière qui disait, quand on lui demandait « qu'est-ce que c'est que pour vous le 8 mars ?», elle disait « je sais pas, je ne savais pas qu'il existait un jour qui fêtait les femmes ». Mais je pense que d'ailleurs, à la campagne, c'est une chose qui est beaucoup moins connue, Anna, ces jours comme ça, liés officiellement à la lutte des femmes.
Certainement, ce n'est pas connu au point de vue de la lutte des femmes, mais disons que si on se réfère à ce que le gouvernement fait, c'est toujours... une journée d'hommage à la femme en tant que mère, en tant qu'épouse. À ce point de vue-là, peut-être c'est connu, mais pas au point de vue de la lutte de la femme, justement, pour arriver à l'égalité.
Alors, vous parliez tout à l'heure du peu de femmes qui se trouvent dans les lieux décisionnels. Et effectivement, ça, ça reste une chose importante, entre autres, de participer aux décisions politiques. Alors, les femmes de droite disent que c'est parce que les femmes ont peur d'assumer, de ne pas assumer leurs obligations familiales. Elles ont peur de voyager en compagnie d'hommes qui ne sont pas de leur famille. Elles ont peur des réunions qui durent tard la nuit. Mais c'est certainement, effectivement, de réels obstacles pour les femmes de participer à des tâches qui ne sont pas les tâches traditionnelles familiales. Parce qu'on peut imaginer que les hommes ne les laissent pas aller tard aux réunions, les hommes ne les laissent pas voyager à l'intérieur du pays, si ce n'est en compagnie de leur famille. Alors, voilà un petit tour d'horizon de la situation des femmes en général au Paraguay à l'aide des divers articles qui sont sortis des journaux principaux. Ce que je peux constater, c'est que ces journaux sont tous des journaux qui paraissent dans la capitale, à Asunción. Alors, on peut se demander, est-ce que vraiment ces articles sont le reflet de la situation de toutes les femmes au Paraguay ? Très certainement pas, puisqu'on sait entre autres que le Paraguay est un pays qui est avant tout un pays agricole. Donc, il y a en tout cas 45% des gens qui travaillent et vivent à la campagne. Et comment sont touchées les femmes qui vivent à la campagne? Ça, c'est une question que nous allons discuter dans quelques instants.
Sujeto a palos en cruz, un hombre quieto, sobre dos palos en cruz, con sogas entre los huesos. Y abajo el viento, cuero sobre dos palos en cruz y enfrente el viento.
Alors le Paraguay est avant tout un pays agricole, comme nous venions de le dire, où 45% des gens travaillent à la campagne. J'ai lu que toujours qu'en janvier 88, il y a eu une première rencontre des femmes paysannes, ce qui nous montre quand même que les femmes paysannes s'organisent elles aussi au Paraguay et elles se retrouvent pour discuter de leurs problèmes particuliers. Alors, j'ai la sensation qu'on retrouve dans les problèmes particuliers des femmes ce qui sont en fait les problèmes des paysans au Paraguay, que nous allons essayer de définir plus en général. Mais il est à remarquer quand même que, par exemple, les jeunes paysannes constatent qu'elles n'ont jamais accès à l'école ou très rarement, soit quand elles sont petites, on a peur que parce que l'école est trop loin, et puis quand elles sont plus âgées, on a peur qu'elles se fassent violer. Anna, vous me disiez hors antenne que c'est souvent même par le maître lui-même, donc effectivement...
En tout cas en Afrique.
Oui, bah, apparemment ça a l'air d'être le même problème aussi au Paraguay. On voit qu'elles supportent lourdement le poids des valeurs traditionnelles qui sont imposées par leur famille, entre autres à propos de la sexualité, où elles reçoivent quasi aucune information sur la sexualité. Et elles se retrouvent souvent, à cause du problème de l'absence de terre, dont nous allons reparler maintenant, à devoir quitter la campagne et aller en ville. Et là, elles n'ont que la possibilité de se retrouver comme employées domestiques ou bonnes, comme on dit. Et là, bien sûr, c'est un des statuts en Amérique du Sud, parce qu'on sait que ça se retrouve dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, qui est vraiment le statut le pire pour une femme, où elles sont le plus exploitées et le plus sujettes à toutes sortes de manipulations par leurs patrons, par leurs employés, qui à la fois les utilisent, usent d'elles comme employées, mais aussi dans beaucoup d'autres situations. Alors, ça, c'est des problèmes qui étaient sortis lors de cette première rencontre. Et la conclusion de cette première rencontre, c'était qu'il fallait absolument que, par rapport au constat qu'elles étaient vraiment considérées comme des femmes de seconde, enfin des êtres humains de seconde catégorie, qu'il était nécessaire de faire des projets pour améliorer leur vie quotidienne et que ces projets soient soutenus par l'ensemble de la communauté, pas seulement par elles. Mais bien sûr que pour obtenir l'égalité, il fallait qu'elles s'organisent et qu'elles s'organisent nombreuses collectivement. Alors Anna, ces préoccupations qui semblent être sorties de cette première rencontre de femmes paysannes, est-ce qu'elles recoupent la situation des paysans au Paraguay en général ?
En général, il faut dire qu'il y a passablement de petits paysans au Paraguay qui sont très pauvres. Et la situation a empiré, disons, depuis quelques années avec justement l'endettement du pays et... Consécutivement, le gouvernement fait encore moins de, assure encore moins des services qui sont habituels ou en tout cas qu'on pourrait penser qui devraient être normaux pour un gouvernement. Il faut dire aussi que le Paraguay est quand même un grand pays, même si par rapport aux autres pays d'Amérique latine, il fait une petite tache sur la carte. Par rapport à la Suisse, il correspond à 10 fois environ la superficie de la Suisse, mais qui n'est peuplé que de 4 millions environ d'habitants. En fait, il y aurait beaucoup de terres à disposition, mais il y a surtout beaucoup de grands propriétaires terriens qui souvent ne les exploitent pas, ces terres, donc ne les cultivent pas. C'est là pour faire de la spéculation. Beaucoup de terres sont également achetées par des multinationales ou par des étrangers. Ainsi, les paysans se retrouvent à devoir se contenter parfois de très peu d'hectares qui n'arrivent pas à donner un rendement suffisant pour nourrir une famille. Par ailleurs, il y en a aussi qui ont plus de terres, mais ils n'ont pas les moyens techniques ni les connaissances pour les cultiver. Donc, en fait, on peut dire que les paysans à la campagne ont de quoi manger. Mais ils doivent se contenter d'habitations très précaires, où il manque souvent les installations sanitaires qui pour nous sont tout à fait normales et fondamentales. Et en fait, ce qu'ils peuvent retirer de leur terre n'est pas suffisant pour faire face à certains problèmes qui peuvent surgir au point de vue de la santé ou bien aussi pour assurer une éducation supérieure à leurs enfants.
Oui, parce qu'on dit par exemple que le taux d'alphabétisation au Paraguay est de 80%, mais dont 50% sont des analphabètes fonctionnels. Qu'est-ce que cela veut dire, ça ?
Ça veut dire que les enfants vont à l'école seulement quelques années et ne vont pas assez, disons, assez longtemps pour apprendre des connaissances qui leur restent ensuite, même si elles ne sont pas pratiquées comme la lecture, l'écriture, très souvent. Donc, avec le temps, ils oublient le peu qu'ils ont appris à l'école.
Voilà, alors quand on sait qu'effectivement, entre autres, les filles, les jeunes femmes sont écartées complètement ou souvent de la formation, ce chiffre peut paraître un petit peu bizarre quand même.
Effectivement, là, on n'a pas le détail au sujet de la proportion par rapport aux hommes et aux femmes, mais on peut certainement dire, sans danger de se tromper, qu'il y en a beaucoup plus de femmes qui ne savent ni lire ni écrire.
Il semble aussi que, par exemple, même le peu que pourraient fabriquer les paysans ou les paysannes, parce que c'est souvent leur tâche, de produits qui ne soient pas directement ceux de la terre, qu'ils aimeraient pouvoir faire commercialiser, et bien qu'ils se font en général piller par ceux qui servent d'intermédiaires. On leur vend des semences, mais on leur achète à des prix, on leur vend très très cher en échange de rachats très très bas. Ça, c'est aussi un grave problème qui ne permet pas aux paysans de s'en sortir un peu mieux.
Effectivement, ce sont des moyens de commercialisation dans lesquels les paysans sont toujours perdants parce que, comme vous venez de le dire, quand ils ont besoin de quelque chose, on le leur vend très cher et quand eux-mêmes doivent vendre leurs produits, ils sont achetés très bon marché. Donc, il s'agit là de créer de nouveaux canaux de commercialisation grâce notamment à ces groupes de paysans qui se sont constitués.
Dont nous allons parler tout à l'heure. Le Paraguay, jusqu'à il y a très peu de temps, était dirigé par un dictateur qui règne depuis fort longtemps, qui était M. Stroessner. Il semblerait que les dernières élections aient amené un léger changement au Paraguay. En tout cas, beaucoup de gens ont subi la répression très gravement pendant toutes ces années. Est-ce qu'on a des nouvelles que les choses iraient mieux maintenant avec le résultat des nouvelles élections ?
En fait, les élections sont venues à la suite d'un putsch militaire qui a eu lieu en février 89. Et donc, il a été orchestré par un général qui était en fait dans le cercle de personnes qui en fait contribuaient à la dictature. Par là, je veux dire qu'il n'y a pas un immense changement par rapport au style qui est mis de démocratie qui est mis en place actuellement. Mais on peut quand même remarquer un mouvement de démocratisation à tous les niveaux, dans le sens que aussi bien dans les partis politiques que dans les syndicats, il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est plus démocratique qu'autrefois.